Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous passons ensemble à la chapelle du Sanctuary. Nous te bénissons pour la liberté que nous avons encore d'étudier ta parole et de la mettre en pratique dans ce bon pays de France. Je te demande, mon Dieu, que tu nous aides à toujours bien vivre selon ta volonté, à nous guider, à nous conduire, à nous protéger, à nous inspirer. Merci Seigneur Jésus. Et je te prie pour tous ceux qui sont à l'écoute avec Internet, que tu les gardes, que tu les bénisses, que tu les entoures, que tu les visites par des anges et qu'ils soient bénis de toi, encouragés, fortifiés par ce message et qu'ils se rendent compte à combien ils sont importants dans ton plan. Merci Jésus. Amen. Alors bonsoir à tous. Ce soir on n'a pas de musiciens, on fait de l'a cappella et on va chanter. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, vous voulez bien? Ah, on va le chanter. Ça va être difficile sans musicien. Hein? Stéphane est parti en vacances à je ne sais pas trop où, à Grasse. Bonjour Stéphane, si tu nous écoutes. Voyons, on a Olivier qui est... Enfin, il y a plein de monde encore qui est parti là. Hein? Bon, moi je suis là. Hein? Principal, tu vois. Olivier revient... Il revient... Ah bon? Bon, c'est bien. Tant mieux, gloire à Dieu. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu seras comblé. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir, joyeux et souriant, c'est la vie avec Dieu. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir, joyeux et souriant à chaque instant. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais, réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu seras comblé. Amen. C'est vraiment pas joli sans musique. En même temps, ça chante un peu faux. Oh, que Dieu nous pardonne, mon Dieu. Moi, j'avais pris des cours de chant, je me rappelle, quand j'étais jeune. Au bout d'un moment, ça m'avait pas cassé la voix, mais cassé les pieds. Voilà, c'était un peu compliqué. Chanter avec les diaphragmes, c'était compliqué. Je pensais qu'on chantait avec la gorge. Il fallait mettre le diaphragme dedans. C'est compliqué. Je vois Lydie qui rigole. On va lire Actes chapitre 23, s'il vous plaît. Le dimanche après-midi, Michou et moi, nous irons voir notre frère Michel, qui est à Rouen et qui est vraiment bien malade. Et on prie vraiment pour lui. Et j'ai reçu aujourd'hui un mail de frère Osborne et qu'il assure de toutes ses prières. Je vais lui apporter cette lettre, ça lui fera du bien aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Et qu'il soutienne aussi Sylvie, son épouse. Vous vous rappelez, ils étaient venus prêcher ici, je crois que c'était en janvier 2009, c'est ça. Vous pouvez aller écouter encore sur Internet ce qu'il a prêché. Actes 23, 1 à 5. Paul est arrêté et il est devant un tribunal. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et là, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Amen. Quelle histoire. Je ne savais pas. Paul dit « Je ne savais pas. » Paul cite la loi de Moïse, il cite Exode chapitre 22, verset 28, où il est écrit « Tu ne diras pas du mal ou tu ne maudiras pas, tu ne diras pas de mal de Dieu, tu ne diras pas de mal contre le oin de son peuple, hein, de ton peuple. » Mes frères et sœurs, il faut maintenant savoir de quoi on parle, et pour bien se faire comprendre, il faut employer les mots justes. Un oin... On parle beaucoup d'onction, mais arrêtons d'être ces gens modernes qui parlent d'onction pour un peu. Ils ont des onctions tous les dimanches après-midi. Enfin bon. une onction, c'est quelque chose de très important. Celui qui est oint, il est oint une fois pour une raison. Par l'onction, une personne qui reçoit l'onction, il reçoit le signe, la marque pour une fonction. Alors premièrement, il y a l'onction royale, par exemple, qui était donnée à David. Donc David était un prince, donc un oint, puisqu'il était oint pour être prince. Et puis aussi l'onction sacerdotale, un souverain sacrificateur est un oint, normalement. Hein? Une personne qui a été ointe en vue d'une fonction particulière. Et nous voyons dans ce texte des choses très bizarres. Dans quel texte? Dans le texte qu'on vient de lire, mais aussi dans un autre qui m'y fait beaucoup penser. Je voudrais qu'on lise ça dans Samuel. On voit que dans 2 Samuel 19, 21, il y a un homme qui se présente devant le roi et qui dit « Ô roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité et qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y prenne point garde, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi, mon Seigneur. » On dirait Louis de Funès, hein, en train de lécher les bottes, tout ça. Alors Abisha, fils de Tseruja, prit la parole et dit, Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit le oint de l'Éternel? Vous voyez, vous connaissez la loi. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? C'était le jour où il reprenait ses fonctions de roi, il était toute bonne. Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Merveilleux, merveilleux. Ce Shimei, fils de Guéra, il avait prononcé des paroles contre le oint, c'est-à-dire contre David, le roi. Il avait été oint, David, vous savez par qui? Par Samuel. Et ce Shimei, il avait dit à David, « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül que tu occupais, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, parce que tu es un homme de sang. » Hein? Ouais. Voilà ce qu'il avait dit. Et puis, il y a un homme qui dit, mais il doit mourir cet homme-là, il doit mourir. Laisse-moi aller lui couper la tête. Et David, ce jour-là, il avait dit, qu'ai-je à faire avec vous? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Que lui dira-t-on donc? Et pourquoi agis-tu ainsi? Demanda son serviteur. Et il continue, peut-être que l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en restaurant les malédictions d'aujourd'hui. On trouve ça dans 2 Samuel 16, donc c'était juste avant. Hein. Et le temps passe et David retrouve son trône. Parce qu'un oint, il est oint. David est oint pour ça, il doit être ça. Et voilà que le peuple donc vient devant le roi, puis au milieu d'eux, il y a ce fameux Shimei qui avait dit « Oui, t'es un homme de sang, etc. etc. » Et celui qui avait maudit, qui avait dit du mal au sujet de David, il implore le pardon, on vient de le lire. Et David dit, Paul dit, on revient à Paul, « Je ne savais pas que c'était un oint, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. » Et David, lui, il dit, « Je sais que je règne. » Il y a un savoir de deux côtés. David, il dit, « Je sais que je règne. » Il se sait oint. Et, en tant que oint, il fait grâce à ce pauvre Shimei, et on a tous tendance à applaudir en disant, « Oh, que c'est beau, que c'est généreux, que c'est gentil. » David est oint, il peut faire ce qu'il veut puisqu'il règne. Il a été oint pour décider, pour trancher dans toutes les situations. Question, David a-t-il vraiment le pouvoir de pardonner alors que la loi condamne? Eh bien non, mes frères et sœurs, non. Et c'est pourquoi David, sur son lit de mort, Il va ordonner une chose qui trouble beaucoup les chrétiens sentimentaux, qui se base sur des émotions, qui disent, enfin, voyons, ce David, mais alors, il a juré, puis écoutez voir ce qu'il fait après, mais c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, David approchait du moment de sa mort, vous trouvez ça dans 1 Roi 2, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre, c'est-à-dire je vais mourir, fortifie-toi et sois un homme. Et il lui dit de faire une chose que lui a toujours fait, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ça, les chrétiens, ils adorent ce verset. Puis après, il laisse tomber un peu les autres. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. On saute un petit peu, on arrive au verset 8. Voici, il dit, après avoir dit tout ça, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra. Hein? Vous vous rappelez, le Shimei, celui qui avait maudit, puis qu'il avait pardonné, je jure, aujourd'hui tu vivras, je jure. Benjamite de Berushim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurais par l'Éternel en te disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni. Car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Voilà, les chrétiens sentimentaux, ils frémissent, ils disent, alors c'est David, une des dernières choses qu'il fait, c'est une horreur pareille, il avait juré devant l'Éternel. Il avait juré. Oui, mais il avait dit quoi exactement? Vous voyez, quand on ne fait pas attention aux mots. Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? C'est comme ça qu'il parle. Hein? Et il dit à Shimei, tu ne mourras pas, et il le jura. Le roi savait qu'il régnait. Il avait été loin pour cela, mais il se savait aussi en dessous de la loi. Il savait qu'il devait trancher, il savait qu'il devait juger, mais selon la loi, pas selon ses lubies sentimentales ou selon ses humeurs du moment, pas du tout, ou selon ses inspirations passagères, suivant si sa bonne femme avait été désagréable, il avait des jugements désagréables, et si sa femme était gentille, lui allait être gentil aussi parce qu'il aurait eu une bonne journée, est-ce qu'elle avait du pied gauche ou du pied droit, et alors ça a influencé. Non, c'était selon la loi qu'il devait juger. Alors, ce que David était en train de dire là, ce jour-là, quand il a gracieusement juré qu'il ne tuerait jamais cet homme, je règne aujourd'hui, et tant que je règne, tu ne mourras pas, mais le jour où je ne régnerai plus, je veux d'ores et déjà que la loi soit appliquée parce qu'elle doit l'être. Et ça, c'est une chose que je fais de mon vivant. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça quand vous lisez entre les lignes. Aujourd'hui. Est-ce que Shimei l'a compris? Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, la Bible ne dit pas que Shimei a compris quelque chose. Mais si Shimei avait été un être spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu si on ne connaît pas les Écritures, il aurait su, en écoutant David, qu'il avait une sorte de sursis, en quelque sorte. Vous voyez? David, loin, ne faisait que pratiquer la loi, il ne pouvait pas faire autrement. Ok, maintenant on revient à Paul. Paul, il insulte le souverain sacrificateur. Muraille blanchie, l'Éternel te frappera. Et puis quand on le reprend sévèrement, il dit, oups, je savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Parce que voilà, hein, c'est quand même écrit, tu parleras pas mal, tu ne maudiras pas le chef, le prince, le oint de ton peuple. Paul, tu savais pas qui c'était? Tu ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur? Je vous rappelle que Paul était pharisien. Je vous rappelle qu'un pharisien, c'était un religieux très légaliste, intégriste, comme on dirait aujourd'hui, qui voulait tout réduire à la loi de Moïse. Paul, voilà ce qu'il avait été. Paul, il était là, devant le Sanhédrin, l'ex-pharisien intégriste, il se trouvait en jugement devant ces hommes, et vous allez me faire croire qu'il ne connaissait pas le souverain sacrificateur ? Le Sanhédrin, c'était le centre supérieur juif composé de 71 religieux qui étaient, dont il y avait un homme qui était à la tête, c'était le souverain sacrificateur. Tous les religieux savaient qu'il était le souverain sacrificateur. Il ne faut pas rien me raconter que Paul, oups, je ne savais pas. Paul savait très bien qui il avait insulté, qui il avait maudit, que Dieu te frappe. Alors, est-ce que Paul a menti? Ça trouble beaucoup de chrétiens, ou si ça, des chrétiens sentimentaux. Comment Paul a-t-il pu mentir comme ça? Non, Paul n'a pas menti. Non? Mais encore faut-il donner aux mots qui sont écrits la valeur qu'ils ont. Paul ne savait pas cette chose, il dit qu'il ne savait pas, parce qu'il en savait une autre. Ce qu'il savait, c'est que depuis peu, le souverain sacrificateur des Juifs, c'était Jésus. Donc l'autre était démis de sa fonction. Est-ce que vous comprenez? Depuis peu de temps, depuis la croix, le souverain sacrificateur, ce n'était plus le barbichu qu'il avait connu jusqu'alors. C'était Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Alléluia! Paul savait très bien où il était quand il était devant le Sanhédrin. Et il savait très bien devant quelle sorte de personne il se trouvait. D'ailleurs, on peut lire dans Actes 23.6, vous allez voir, Actes 23.6, il le dit, il leur fait comprendre. Il dit, c'est écrit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, il s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Il fait exprès. Parce qu'il sait très bien que s'il dit ça, ça va les mettre les uns contre les autres. Parce que, alors c'est écrit, « Quand il eut cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'ils n'exigent ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment que les deux choses existent. Alors il y eut une grande clameur, et les scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat. » Une bande de sauvages. « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange doit-il parler ? » Comment ? La discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul soit mis en pièces par ces gens, parce que c'était des sauvages, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire dans la forteresse. C'est rigolo. Paul les manipule. Paul les manipule. Alors, qui insulte qui, là, dans cette histoire ? Là, dans ce local rempli de pharisiens et de sadducéens, avec le souverain sacrificateur en tête, qui insultait ? Ce n'était pas Paul. Les insultes, c'était le souverain sacrificateur et tous ses collègues qui les prononçaient. Parce que qui était loin dans la nouvelle alliance qu'ils avaient eux-mêmes rejeté en crucifiant le souverain sacrificateur ? C'était Paul le loin. Maintenant, Paul a-t-il une seule fois prononcé le nom de Jésus devant cette cour? Non, on a lu tout le texte, pas une seule fois. Mais la nuit même, Jésus lui apparaît et lui dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Vous voyez, ça dans le même chapitre au verset 11. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous preniez conscience que c'est important que vous sachiez qui vous êtes. Vous n'êtes pas Chiméi. Vous n'êtes pas non plus David, parce que ces deux personnes, elles évoluaient dans une dispensation différente de la nôtre. La loi régnait à cette époque. Et aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes sous une autre dispensation. Alors, la question c'est, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le souverain sacrificateur des pharisiens, des sadducéens, ou est-ce que vous êtes Paul? Le souverain sacrificateur se croyait toujours au temps de la loi. Il savait quelque chose, mais c'était faux. Il en était certain, mais c'était faux. Paul savait que la page avait été tournée. Alors, bien que Jésus dit de ne pas maudire, Paul maudit le souverain sacrificateur. Et paf ! Alors la question, la première, c'était, Paul a-t-il menti ? On a vu que non. Maintenant, la deuxième question, c'est, Paul a-t-il désobéi à Jésus en maudissant le souverain sacrificateur? Eh bien non, mes frères et sœurs. Bien que Jésus ait dit « bénissez, ne maudissez pas », Paul a bien fait de maudire. Parce qu'il savait qui il était, lui-même, et il savait aussi qui était le souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire juste deux petites phrases et vous allez comprendre. Maudire ce que Dieu a béni, ce que Dieu a oint, c'est mal, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais bénir, honorer et s'aplatir devant ce que Dieu a rejeté et maudit, ça aussi c'est mal. En règle générale, bénissez. Ça c'est l'ordre. En règle générale, bénissez, oui. Mais utilisez aussi votre autorité avec justice et amour quand il le faut, de la part de l'Éternel. Or, Jésus avait déjà dit à tous ces gens-là, « Malheur à vous !» Il les avait maudits. Paul se soumettait à Jésus en maudissant. « Dieu te frappera, muraille blanchie !» D'ailleurs, Jésus avait dit, « Vous êtes une bande de tombeaux blanchis et remplis d'ossements et d'impuretés à l'intérieur. » Vous voyez, un homme oint sous la loi comme David, il était soumis à la loi, parce que c'était dans sa dispensation, c'était dans son temps. Et un homme oint sous la grâce, il est soumis à Jésus, auteur de la grâce. Amen. Maintenant, Jésus nous dit que nous avons le pouvoir de lier et de délier. Il nous dit que nous avons le pouvoir de pardonner et de retenir les péchés de certains. Jean, chapitre 20, verset 23. Grand mystère. Grand mystère pour beaucoup. Qui a ce pouvoir? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ceux qui sont oints pour une fonction et remplis de la puissance d'amour de Dieu pour manifester cette fonction. Les disciples de Jésus n'ont pas toujours été remplis de l'Esprit d'amour de Dieu. Rappelez-vous, par exemple, le jour où des Samaritains ont refusé de recevoir Jésus et ses disciples parce qu'ils se rendaient à Jérusalem, et pour eux, voilà, c'était pas une bonne... Donc, ils leur ont refusé. Jacques et Jean, ils ont dit, « Veux-tu que... » Ils ont dit à Jésus, « Veux-tu que de façon tomber le feu du ciel sur eux ?» Ils étaient remplis de foi. Mais Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Vous voyez, remplis de foi, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est pas comme ça. Vous voyez, vous ne savez pas, Paul disait, je ne sais pas, je ne savais pas. David disait, je sais. Et il y a des questions, il y a quelque chose de très important là. Quelle est cette chose importante? C'est de savoir. Savoir. Savez-vous quel esprit vous anime? Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous quel esprit vous anime? Tous n'ont pas le pouvoir de lier et délier, de pardonner ou de retenir les péchés. Seuls ceux qui sont loin et remplis d'un esprit d'amour peuvent utiliser ce pouvoir. Pas les autres. Si une personne remplie de mauvais esprit utilise ce pouvoir contre vous qui êtes un oint, si toutefois vous êtes oint, son pouvoir n'aura aucun effet sur vous. Il peut vous maudire tant qu'il veut, c'est rien du tout. Pipeau de chat, rien. Alors, ne craignez que Dieu, mes frères et sœurs, ne craignez pas ceux qui cherchent à vous impressionner avec ce soi-disant pouvoir. Le vrai pouvoir, il est dans les mains de Dieu et de ceux qui font sa volonté, avec un Saint-Esprit d'amour en eux, qui les remplit, qui les baptise, dans lequel ils sont immergés. David, il savait ce qu'il faisait avec Shimei. Paul savait ce qu'il faisait avec le souverain sacrificateur. Pierre savait ce qu'il faisait avec Saphira. Pourquoi je dis Saphira? Parce que Pierre ne savait pas ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire avec Ananias. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Avant qu'Ananias ne meure, Pierre ne savait pas quoi faire dans cette situation. Il s'est borné à engueuler Ananias. Quoi. Il dit, oui, comment c'est possible que le diable a mis ça dans ton cœur, de tromper comme ça l'église, en gardant une partie pour toi, c'est pas possible. Relisez attentivement Actes chapitre 15. Et pendant qu'il est en train de l'enguirlander, Dieu frappe Ananias, boum, il meurt. Alors, Pierre a su ce qui allait arriver à Saphira, sa femme. Vous comprenez? Il a appris. Nous devons savoir ce que nous faisons. Quand nous lions, quand nous délions, quand nous pardonnons, quand nous retenons les péchés de quelqu'un, nous devons savoir ce que nous faisons. C'est en voyant ce que Dieu a fait à Ananias que Pierre a appris ce qui allait suivre avec Saphira quand elle allait arriver. On a des choses à apprendre, il faut savoir, et pour savoir, il faut apprendre. Savoir dans quel temps nous sommes, Nous ne sommes pas dans le temps de la loi, nous sommes dans le temps de la grâce. Et tout le monde dit Alléluia, mais oui, mais où dans le temps de la grâce? La Bible nous dit dans Apocalypse 2 et 3 qu'il y a sept périodes, sept âges, sept temps. On ne peut pas agir maintenant comme on agissait du temps de Philadelphie ou du temps d'Éphèse ou de ces choses. Dans ces sept temps, il y a quatre influences qui viennent du ciel sous la forme de quatre êtres vivants. Un être vivant à tête de bœuf, un être vivant à tête d'homme, un être vivant à tête d'aigle, et puis un être vivant à tête de je ne sais plus quoi. Il y a quatre êtres vivants. Nous ne pouvons pas agir aujourd'hui comme les chrétiens qui agissaient au temps où c'était l'être vivant à tête d'homme qui influençait l'Église, parce que ce n'est pas cet être vivant-là aujourd'hui qui agit. Ce n'est pas cet être vivant à tête d'homme qui agit aujourd'hui. Est-ce que vous savez quel est l'être vivant aujourd'hui qui agit? Et quel est son pouvoir d'action, son étendue d'action? Est-ce que vous le savez? Il faut savoir. De plus, dans ces sept temps, il nous est dit dans la Bible qu'il y a là sept seaux qui tiennent cachés, c'est des rouleaux, c'est des rouleaux cachetés, et les seaux sont ouverts, et dans ces rouleaux, dans ces parchemins, il y a des prophéties. Il y en a quatre qui concernent l'Église, dont une seule nous concerne nous, à notre époque. Est-ce que vous savez laquelle nous concerne? Est-ce que vous savez sous quel sceau nous sommes? Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous en quel temps nous sommes? Savez-vous sous quel sceau nous vivons? Vous voyez, beaucoup trop de gens bricolent avec les choses de Dieu. Alléluia! Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. C'est vrai, c'est bien. Il faut que des gens le disent. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens pour enseigner le peuple afin que le peuple sache. Parce que si le peuple ne sait pas, il va se conduire n'importe comment. Et on n'a pas le droit de se comporter n'importe comment comme des bricoleurs. Il y a des bricoleurs qui aiment l'ignorance. Il y a des ignorants, c'est de naissance, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas emmagasiner la connaissance. D'accord, ok. Mais il y en a, ils font exprès, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent rester dans l'ignorance. Ils veulent ignorer que, et ceci et cela. Voilà ce que nous dit la Bible. Mes frères et sœurs, nous devons veiller, nous devons prier, nous devons apprendre, parce que Jésus est à la porte et il attend que nous sachions ce que nous avons à être et ce que nous avons à faire. Il s'attend à ce que nous sachions. Alors, ne restons pas inoccupés ou occupés avec des balivernes à des choses qui ne valent pas un rond, des trucs qui nous perdent notre temps. Ce qui vient et ce qui est déjà sur cette terre, c'est de la plus haute importance. Il nous faut donc être prudents comme des serpents et non pas aveugles comme des taupes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous éclaire et vous donne envie de lire, de chercher à comprendre les Écritures. Vous savez, hier, j'étais acheté une Bible pour une jeune de notre communauté, et puis j'ai vu avec beaucoup de joie que là, ils vendaient un bouquin qu'on trouve aussi à la FNAC, qu'on trouve dans n'importe quelle bonne librairie. Vous avez remarqué, on dit toujours dans les bonnes librairies. C'est un bouquin qui s'appelle « La Bible pour les nuls ». Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Mais moi, je ne suis pas un nul ». Feuilletez ce livre, vous allez vous apercevoir que vous êtes un nul. Achetez-le, il coûte 21 euros. C'est pas le bout du monde. Procurez-vous ce livre. S'il est bien relié, il coûte 29 euros, cartonné. Et bien là, à la Société Biblique, à rue de, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, cette rue à Paris, là, Rambuteau, ils le vendent. Ah, oh, j'ai dit, c'est super, je n'en comprends rien. Il faut apprendre à apprendre. Beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas même appris à apprendre. Hier, je parlais avec un homme. Enfin, disons plutôt que cet homme me parlait. Il m'a parlé. Et chaque fois que j'avais un petit moment, j'essayais de dire un mot. Et aussitôt que je commençais, il regardait à côté, derrière lui, comme s'il attendait quelqu'un. Je dis, hey, tu m'écoutes? Ah oui, oui. Je dis, fais au moins semblant de m'écouter, parce que là, il me semble que tu n'écoutes pas du tout. Tu n'es pas attentif. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas appris à apprendre, à se rendre attentif, à se concentrer sur ce qui est dit. Alors, c'est grave, mes frères et sœurs. Je dis ça, c'est pas, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Aussitôt qu'on leur parle, il y a comme un voile qui vient sur leurs yeux. C'est un peu comme si ça s'éteint. Vous n'avez jamais remarqué ça? Leurs yeux s'éteignent. Et puis voilà, on sait qu'on parle à rien. Ah, on parle au tympan de leur oreille, là. Rien. Ça ne va pas plus loin. Ça ne rentre pas. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas entendre. C'est étonnant. Vous, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Soyez des gens qui apprennent à apprendre et apprenez parce qu'il vous faut savoir ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous guider dans ta parole et de nous aider afin que nous soyons de plus en plus efficaces et qu'il se produise au travers de nous encore de plus en plus de miracles et de prodiges. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, pour que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.